Bonjour à toutes et bonjour à tous. Toute cette semaine, des cahiers de doléances que nous avions tendus aux citoyens et aux citoyennes de France en 2012, à la veille de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, nous les avions ouverts à quelque 60 000 détenus de France qui, pour une grande majorité, ont toujours et avaient toujours le droit de vote. C'est sur France Culture jusqu'à 15 heures. Les pieds sur terre. Quartier d'été.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je suis dans ma cellule. Elle doit faire 10 mètres carrés. Il y a un placard, un frigo, une table, une chaise, et une douche, un lavabo, une télé. Un lit, une petite fenêtre. Ça pourrait aller mieux si c'était dehors, si c'était près de mes proches. Je suis enfermé, donc. Ça fait que 4 ans que je suis en prison, enfin que c'est déjà beaucoup. Et à part, en fait, sortir et rentrer, j'ai quasiment rien fait de ma vie. Voilà. Donc, y a pas de place pour moi, en fait, dans ce monde, en fait. Et, chaque fois en fait que je suis sortie, de toute manière, on m'a dit « ouais, on va te remettre dedans ».
Nous sommes en 2012 et c'est un record qui a été battu au mois de mars de cette année puisqu'il n'y a jamais eu à ce moment-là autant de personnes détenues en France. Plus de 66 000 hommes et femmes incarcérés avec un taux d'occupation des prisons de 116%, de quoi se vanter. Depuis la diffusion de cette émission, ça n'a guère changé, simplement augmenté, 68 000 détenus, 117% de taux d'occupation. Depuis 1994 pourtant, la privation des droits civiques n'est plus automatique pour les prisonniers. À l'exception des personnes exerçant des fonctions publiques et condamnées pour trafic d'influence ou corruption, tous les détenus peuvent théoriquement voter. Mais pour y arriver, il faut y mettre du sien. Être convenablement informé, refaire ses papiers d'identité, s'inscrire sur les listes et trouver une personne à qui confier son vote par procuration. C'est en somme un parcours du combattant régulièrement dénoncé par l'Observatoire international des prisons. Il faudrait sans doute faire comme nos voisins allemands et danois et installer des bureaux de vote dans les prisons pour que ce droit politique ne soit pas virtuel. Mais la route est longue, à vue de nez. En attendant, aux dernières élections présidentielles, les détenus n'étaient pas plus de 1980 à avoir voté au second tour donc en 2012, soit 4% d'entre eux. Ils ne seront probablement pas beaucoup plus aux prochaines élections présidentielles. Mais qu'à cela ne tienne, en 2012 donc, citoyens prisonniers, nous vous avions ouvert nos cahiers de doléances et nos micros, à vous aussi et à vos familles, jusqu'à 15h dans les pieds sur terre, quartier d'été, des rediffs d'été par la magie des ondes qui traversent les murs. Un reportage d'Olivier Minot, diffusé donc pour la première fois le 22 mars 2012 et à écouter avec du recul.
Je m'appelle Georges, j'ai 31 ans, deux enfants, je suis en train de divorcer et j'en suis à quasi 6 ans de prison. Ça devrait être la fin du tunnel, là. Je vois la fin. Ça dépendra entre cet été et janvier prochain.
Vous êtes seul du coup dans cette cellule ?
Ouais, tout à fait. Heureusement. Je me rappelle en 2006, on était 3 dans la cellule, j'avais des voisins qui étaient 4. Donc ça faisait 2 par terre.
4 dans 9 mètres carrés.
Voilà.
Je m'appelle Yanis, j'ai 28 ans. Je suis du sud de la France. Bon, ben ça va, tranquille. Malgré l'endroit où on est, on fait avec et puis on essaie d'avancer. La santé, le courage. Et puis la patience. En sachant que ça fait bientôt 10 ans que je suis là-dedans. Mais bon, il y a eu beaucoup d'expertises psychologiques et psychiatriques qui prouvent bien qu'en France, une peine qui dépasse 6 ans, on ne sait plus à quoi elle sert. La personne ne comprend plus pourquoi elle est en prison. Elle ne sert plus à rien, en fait. Mais bon, on est là pendant des années, et puis on attend.
Toi, tu sais à quoi elle sert, ta peine ?
Je suis rentré jeune en prison. J'avais compris, je comprenais, et puis là, je ne sais plus à quoi elle sert, en fait. Ouais. Des fois, t'as envie de fermer les yeux et puis jamais envie de les ouvrir. On a tous pensé à se dire, putain, pourquoi continuer à vivre ? On s'est tous dit ça. C'est pour ça que beaucoup de détenus se plongent dans des cachets, dans des traitements qui les rendent des loques. Ou alors, beaucoup de détenus se mettent à fumer du shit ou prendre des drogues parce que c'est dur, voilà. Donc, ils veulent plus voir les choses. Il y a trop d'idées qui nous passent par la tête. Les suicidés, j'en ai vu un paquet. Parce que le soir, quand t'es dans sa cellule, tu fais que penser, que gamberger. Tu te tournes à droite, tu as le mur. Tu te tournes à gauche, tu as le mur. Et voilà. Chaque soir. Eh bien, les gens qui se suicident. C'est incroyable. J'en ai vu énormément. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est que de la haine. De la haine avec un désaccord qui te révolte plus que tout. Tu te retrouves avec des procureurs qui te comprennent pas, des juges qui te comprennent encore moins parce que personne ne veut te recevoir. C'est dur de croire en l'espoir, mais tout seul. Tout seul avec un espoir et puis un mur en face de toi. Et ça, crois-moi, c'est très dur. C'est ça le plus dur.
Alors, dans le cahier de doléances, on écrit ce qui nous met en colère. Qu'est-ce qui vous met en colère ?
La prison. Ça ne devrait pas exister. Non, mais bon. J'ai un ami qui a été connu pour violence. Pas pour des gros faits, hein. Il est tombé 4 fois en prison pour des faits de violence. Une fois, il a eu un différend avec quelqu'un. La chose s'est terminée par une baffe. Il est passé au tribunal. Il a pris 6 mois. Une baffe. Il a été jugé sur son casier parce qu'il est rentré 4 fois en prison pour violence. C'est un peu cher payer la baffe, quoi, 6 mois. Après, on se plaint qu'il y a trop de prisonniers, quoi.
Aujourd'hui, les peines sont lourdes. Ils ne se rendent pas compte, les juges ou les procureurs, qui détruisent des familles pour un simple vol. J'ai vu des gens rentrer pour un simple vol prendre des années de prison. J'ai vu des consommateurs de shit, moi, rentrer pour des années de prison. J'ai vu des gens pour excès de vitesse se retrouver en prison. Pour défaut de permis, pour défaut d'assurance, se retrouver en prison. Ça arrive à tout le monde. La France, elle est devenue trop sévère.
Ces 10 dernières années, je sais pas, on préfère construire des prisons que des maternelles. On préfère former des surveillants et supprimer des professeurs d'éducation nationale. Ben voilà. Pourtant, on continue à mettre des gens pour pas grand-chose en prison.
On est juste devant la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, juste devant l'entrée.
Oui.
C'est un bâtiment avec des murs gris.
Un grand bâtiment qui fait très peur. Il y a beaucoup de barbelés.
Il y a une sorte de filet au-dessus du...
Les filets qui sont au-dessus, c'est pour éviter les risques d'évasion par hélicoptère, en fait.
D'accord. Alors vous êtes souvent venu ici ?
Oui, souvent, oui. Accompagné de mes enfants, je rendais visite à mon concubin qui était incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas.
Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire sur les choses qui ne vont pas ?
Pour les détenus, en ce qui concerne le mitard, apparemment il y a la gale, c'est trop sale pour une prison qui est récente. Les détenus, surtout les jeunes, ils les laissent 21 heures sur 24 en cellule. Il y a des attentes de 3 à 4 mois pour être reçus par un psychologue à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas. Il n'y a pas de dentiste. En ce qui concerne mon concubin, il a attendu 6 mois pour être reçu. Malheureusement, il n'a pas été reçu vu qu'il a été transféré entre-temps. Donc, toute la durée qu'il a été à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, il n'a pas eu de soins de dentiste. Donc, il se contente de leur donner des doliprane, en fait. Au niveau des pétitions, elles ont été faites. Il y avait des pétitions qui avaient été faites aussi l'année dernière, suite à un ras-le-bol général des détenus.
Plus de la moitié des détenus, je crois, qu'ils ont signé.
Oui, et l'autre moitié, ils n'ont pas signé par crainte de représailles. Ils ont peur, en fait, de se voir refuser après toutes les demandes pour une liberté conditionnelle par la suite.
Ça a eu des répercussions, il y a eu des suites?
Oh oui, on a eu des suites. Les deux personnes qui ont mis en place les pétitions, ils ont été transférés dans d'autres prisons. Voilà. Notamment mon mari, mon concubin et la personne qui était avec mon concubin.
Et du coup, après les pétitions, elles n'ont pas eu de...
Pas de suite.
Pas de non.
Suite. Si, le seul changement qu'il y a eu, c'est qu'ils ont supprimé les colis. Ils avaient mis en place les colis pour les familles, qu'on puisse envoyer tout ce qui est, vous savez, les produits d'entretien... tout ça, ils avaient mis en place et nous, ça nous arrangeait bien. Et puis, ça arrangeait bien les détenus parce que de cantiner à l'intérieur, c'est super cher. C'est un coût exorbitant. Donc, nous, ça nous revenait moins cher à nous, les familles, d'acheter par exemple tout ce qu'ils avaient besoin de l'extérieur, de l'envoyer par colis. Tout ça, ça a été supprimé.
Toi, tu travailles à l'intérieur ?
Ouais, je travaille, moi, à l'intérieur. Mais je suis obligé de travailler. Si je veux, en fait, sortir plus vite, si je veux, en fait, obtenir, en fait, une conditionnelle ou des permissions pour se laver, pour nettoyer sa cellule, pour s'habiller, les fumeurs, pour t'acheter des clopes, pour boire ton café le matin, manger correctement en prison, je suis obligé de travailler pour un salaire de misère, en plus. Déjà, on est payé à la tâche, on n'est pas payé à l'heure. Et moi, déjà, je ne travaille pas tous les jours, parce qu'il n'y a pas dû travailler tous les jours. Mais une matinée, c'est de 7h30 à 1h30. Et je fais 7 euros. Ouais, c'est même pas 2 euros de l'heure. Voilà, et des sacrées cadences, quoi. Il n'y a pas de pause, il n'y a rien si je vais faire tes 7 euros. En réalité, cet argent, on n'en voit jamais la couleur. Ça revient tout à l'administration pénitentiaire. On a payé, en fait, pour ceux qui ont la télé, un frigo, qui ont payé la télé plus le frigo, ça leur fait 30 euros. Partie civile par mois, en général, les gens, ils donnent 50 euros. Voilà, ça fait déjà 80 euros de partie. Si tu travailles tout le mois et que tu arrives à faire les 180 euros, tu as déjà éliminé 80 euros. Tu ne profiteras pas, en fait. Il te restera 100 euros. Tu ne vas pas te nourrir, en fait, tout le mois avec tes 100 euros, quoi. Parce que les prix, c'est plus élevé que dehors, bien évidemment. Comme si tu veux de la Nivea ou de la mousse à raser, on te prend 20 à 30% selon en fait, tes commandes. C'est vraiment super cher.
Si tu sais faire preuve d'autorité en étant à l'écoute, si tu peux dialoguer, mais aussi rester ferme, si tu peux te faire respecter tout en respectant l'autre, tu peux faire mon métier. Surveillant pénitentiaire, quelle société peut se passer de vous ?
On a eu de jolies pubs de surveillants, un peu comme l'armée, pour recruter, que le boulot est bien, ils sont à l'écoute. S'ils étaient déjà qu'à l'écoute, ça serait déjà pas mal. Un exemple, j'étais au tribunal pour un divorce. Et la cantine à tabac est arrivée en même temps.
La quoi, pardon ?
La cantine de tabac.
Pour acheter des clopes ?
Voilà. Et en rentrant du tribunal, je me suis fait voler 120 euros de cantine. Et à un moment donné, j'ai demandé des explications et j'ai demandé du tabac parce que j'avais une perte de 120 euros. Quoi. Je suis pas riche non plus. On me demandait du tabac et un jour, un surveillant n'a pas voulu s'expliquer avec moi, enfin il n'a pas cherché à comprendre, il n'a pas cherché à rien du tout et je me suis retrouvé à me faire bousculer en arrière, j'ai la tête et un radiateur en fonte, je me suis à moitié écroulé par terre et j'avais une jambe qui était dans l'entrebâillement d'une porte et à ce moment-là le surveillant sans regarder si ma jambe elle était là ou pas a fermé la porte. Donc ma jambe a ramassé. Et là, sous le coup de la colère, je me suis relevé d'un coup et j'ai forcé le passage, je suis sorti. 5 minutes après, je me suis retrouvé menotté par terre. Les jambes pliées, je ne savais pas que j'étais aussi souple. J'avais les jambes complètement dans le dos, malgré une sciatique aussi. Et après, on m'a porté comme ça, direction le mitard. Voilà un gros exemple de non-écoute.
Du coup, le mitard, vous pouvez nous en parler aussi ?
Un lavabo en fonte,
petit bureau, un lit. Pas de télé, pas de chauffe, pour faire à manger ou pas de plaque chauffante. Une demi-heure de promenade dans un petit carré. Et on voit plus personne. C'est vraiment en coupure de tout.
Donc c'est plus si à un moment donné on est le matin, l'après-midi, la nuit. Si la seule façon de s'en rendre compte, c'est selon comment le bruit qu'on entend dans la prison. C'est notre horloge.
Voilà. Le mitard, ça, c'est la deuxième vitesse pour casser les gens. Et pendant 45 jours, ben, c'est du cassage de morale, on casse sa tête, quoi.
Et qu'est-ce qui vous a fait tenir ?
Le shit. Ça, il y en a en prison, on va pas en cacher, hein, le shit. Le téléphone, que j'ai réussi à me faire passer de temps en temps pour pouvoir prendre des nouvelles de mes enfants dehors. J'ai deux enfants.
Donc le fait de savoir qu'ils allaient bien, que l'école ça se passait bien, tout simplement.
Alors qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça aille mieux ?
Il faudrait qu'on puisse se mettre en relation entre nous, pouvoir en fait avoir des échanges entre les autres prisons en fait aussi. Et je pense qu'un syndicat des détenus, ce serait vraiment une bonne chose pour l'année 2012.
Ce serait quoi tes revendications ?
L'abolition totale des longues peines, il y a la fermeture des quartiers disciplinaires, là, le droit à avoir des visites en fait sans permis de visite. Ouais, le droit à la sexualité. Moi, tu vois, les revendications, j'en ai plein face à l'administration pénitentiaire. Mais discuter avec eux, j'ai pas envie. Un syndicat, moi, pour moi, ce serait pas une bonne idée, en fait, d'aller dans le dialogue avec l'administration pénitentiaire. Je verrais plus un syndicat qui irait dans la confrontation avec l'administration pénitentiaire. Je pense que le dialogue entre l'administration pénitentiaire et un syndicat des prisonniers, il est impossible. C'est pas concevable. Il n'y a pas de dialogue possible entre un bourreau et la victime. Il n'y a pas de dialogue possible.
Je m'appelle Naïma, j'ai 24 ans et je suis femme de détenu. Il est en prison depuis octobre 2008. Il a pris 10 ans. Voilà, donc il entame sa quatrième année. Faut bien tenir vu que j'ai un fils. Et voilà quoi, sinon l'absence de son père, bah, c'est dur pour lui parce qu'il, malgré qu'il soit petit, il comprend très très bien la situation. Donc au parloir, il s'amuse avec son père, mais dès qu'il part, il est en pleurs.
Mais du coup, il est en prison depuis 4 ans et votre fils, il a 1 an ?
Oui. C'est un bébé qui a été conçu au parloir, voilà, au centre pénitentiaire.
Ouais. Pourquoi du coup vous avez décidé de faire un enfant avec un mari qui est en prison ?
Parce que justement, on connaît la date d'entrée mais pas la date de sortie et qu'on voulait fonder une famille avant son incarcération. Et là, là on s'est dit que le moment était venu de fonder une famille. Et mon petit bout de chou, il est là.
On peut faire l'amour dans les parloirs ?
On peut, oui, on peut, mais c'est interdit. Ça vaut à 4 voire 6 mois de suspension. Déjà, moi, je lui ai ramené un sandwich et j'ai eu un mois de suspension de parloir. Donc, c'est parti fouille au corps. C'était des gendarmettes qui nous ont dit de tout enlever pour voir s'il n'y avait pas autre chose qu'un sandwich. En plus, moi, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Une fois aussi, je suis rentrée, j'ai oublié mon téléphone portable. On m'a emmené en garde à vue avec mon fils qui avait un mois quand même. On m'a amené 2 heures en garde à vue.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça aille mieux ?
Eh ben déjà, avoir des parloirs un petit peu plus longs, ce serait bien.
Pour l'instant, vous avez quoi ?
C'est 1 heure de parloir pour 2 heures de trajet, quand même. Donc, 2 fois par semaine, j'y vais, ouais. Donc, pour l'instant, je travaille pas, donc je peux y aller 2 fois par semaine. Sinon, qu'est-ce qui serait bien de changer ? Ben, tout, en fait, le personnel, les surveillants qui sont pas accueillants, ils sont pas souriants. Enfin, en même temps, ils font leur travail, je sais, mais un minimum, quoi. Je trouve qu'ils mettent la famille des détenus dans le même panier que les détenus. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu un mort au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Il s'est pendu parce que son fils est malade, il a demandé une permission, on lui a refusé plusieurs fois. Résultat, il s'est pendu. Donc il n'y a pas d'humanité en fait, ils font rien pour que ça se passe bien. On en arrive à un point où même moi, je suis pas tranquille. Je suis pas tranquille. J'ai peur pour la vie de mon mari. J'ai vraiment peur. Je sais qu'il peut se tailler les veines ou... Enfin...
Alors, si vous aviez Nicolas Sarkozy en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Qu'est-ce que je lui demanderais ? Je lui demanderais déjà de remettre les grâces présidentielles, pour commencer. De remettre les permissions pour le 14 juillet, parce qu'il les a enlevées. Et puis, je lui demanderais aussi de ne pas incarcérer un détenu tant qu'il n'a pas été jugé. Parce que moi, mon mari, il est resté 3 ans en mandat de dépôt, quand même, avant d'être jugé.
Qu'est-ce qu'il faudrait changer de manière plus globale, même à l'extérieur, pour que ça aille mieux ?
Ce qu'il faudrait faire, je pense, mais c'est changer complètement le gouvernement. Ils veulent tout fermer, garder le plus de thunes. Alors ils ferment des hôpitaux de province, que des gens ils sont obligés aujourd'hui de faire des kilomètres pour aller dans les grands hôpitaux. Ils ferment des tribunaux de villages, quoi. J'ai vu un reportage la dernière fois, les juges, ils n'ont pas de thunes en France. Ils se retrouvent à galérer. Ça fait que c'est un cercle vicieux, tout le monde galère. Tout le monde pète un plomb. C'est incroyable. Il faudrait changer tout le gouvernement, en fait. Et puis, surtout, une chose qu'il faudrait changer. Comment les Français, aujourd'hui, peuvent comprendre qu'au Sénat, ou un ministre qui travaille au Sénat, qui travaille seulement 8 mois, et bien, au bout de 8 mois de travail, il a une retraite à vie de 4 à 6 000 euros.
Donner du travail, ça serait quelque chose de magnifique, déjà. Et du travail payé pour ce que c'est, et non payé à coups de lance-pierre. Réaugmenter le pouvoir d'achat, ce serait pas mal aussi.
C'est dur de se nourrir. Comment voulez-vous que les gens ils jouent pas au con aussi, par exemple ? Il y a beaucoup de monde en prison. Bah ouais, ils n'arrivent pas à se nourrir, les gens, pour certains. Bien sûr, il y a ceux qui font les cons et qui braquent pour avoir plus d'argent, et il y a ceux qui braquent parce qu'ils n'ont pas un bout de pain, parce que le pain, il coûte 6 francs, et qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Il y a des gens, ils cambriolent 4 maisons et ils sortent avec 1500 euros pour 4 maisons cambriolées. Et tout ça, c'était pas juste pour avoir 1500 euros et s'acheter une paire de Air Max ou de Lacoste comme on croit. Mais non, c'est pour remplir le frigo de leur maman, tout simplement. Ils n'excusent pas le fait de cambrioler, enfin, et tout, etc. Hein. Loin de là, mais bon, il faut voir certaines fois pourquoi ils l'ont fait, quoi. Moi, personnellement, je sais que je suis pas un braqueur de millions et je ne le saurais jamais. J'ai eu fait des cambriolages et ça a été pour me nourrir. J'ai été à la rue à un moment donné et j'ai fait ça pour me nourrir. J'ai pas retourné une maison, non. J'ai pris deux, trois premiers trucs qui vendaient facilement et bêtement et voilà. Ça permet de manger un jour, deux jours, trois jours, selon la somme.
Les prisons sont faites pour créer de la délinquance et des voyous. Les petits jeunes, quand ils rentrent en prison, c'est pourquoi ? C'est des actes de délinquance. C'est pour vivre et pour se vivre un peu. Mais quand on prend un petit jeune délinquant et qu'on le met dans un endroit où il n'y a que des voyous, que des délinquants, et bien dans un an, deux ans, ce sera quoi ? Un bon délinquant ou un bon voyou ? C'est une logique toute faite. Hein ? C'est pas en mettant quelqu'un au milieu des loups qu'on va en faire un mouton ou un agneau. Hein ? Non, non. On n'en fera qu'un loup, hein ? C'est tout.
Comment on vit les élections à l'intérieur ?
C'est dur de voter en prison. Parce qu'on n'a pas tous le droit de voter. Je suis un criminel, j'ai pas le droit de voter en France. C'est dur, parce que même pour voter, il faut qu'on envoie les papiers à la mairie de là où est-ce qu'on est incarcéré. Et puis la mairie nous renvoie un papier comme quoi on a peut-être le droit de voter. Mais c'est, la vérité, ça reste souvent sans réponse.
Ça en fait quand même des voix de détenus, alors... On n'est pas bien informé. On va dire on est 70 000, je crois, à peu près, ou 78 000 en France. Donc, ça fait quand même beaucoup de voix contre Sarkozy. Hein. Vous vous rendez compte, le pauvre.
Vous pensez que tous les détenus, ils voteraient contre Sarkozy ?
Et pourquoi vous voudriez qu'ils votent Sarkozy ? Il a inventé les peines planchers, il a enlevé le 14 juillet.
Nicolas Sarkozy, c'est le seul président, je me souviens encore de ses propos, qui disait « Mais pourquoi je vais donner des cadeaux aux gens qui sont en prison ?» Il a dit « Non, je fais pas de cadeaux. » Je me rappelle. rappelle ce jour où est passé Sarkozy, j'étais ma cellule en train de faire des pompes, puis je lève la tête et je vois, c'est Sarkozy qui est passé. Bravo. Et dès qu'il est rentré président, les prisons se sont remplies. Ah ouais. Il a voulu sa loi de la sécurité, cette fameuse tolérance zéro, là. Il a eu. Ouais.
Si vous aviez le président de la République en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Rien. Il n'y a rien à lui dire.
Je lui dirais bravo. Bravo d'avoir été élu en faisant peur en parlant de délinquance.
En gros, je dirais en fait, le monde que tu me proposes ne me convient pas. Je lui demanderais déjà de fermer les prisons en premier. On continue à construire des places de prison, c'est bien qu'en fait, on veut exclure de plus en plus de gens. C'est juste en fait cacher en fait les gens qui sont pas d'accord en fait avec ce fonctionnement. Il faut changer en fait le système pour détruire en fait les prisons.
On peut garder le moral, mais des choses qui rendent heureux en prison, je crois pas qu'il y en ait. Et puis celui qui est heureux en prison, c'est qu'il y a un problème quelque part. Hein. Ou alors c'est qu'il va sortir.
Voir mes proches, c'est quelque chose qui me rend heureux, de pouvoir en fait dialoguer avec eux, de savoir en fait que des fois je peux être là pour eux, qu'ils peuvent être là pour moi. C'est des choses très simples en fait. Je veux dire, voir un petit oiseau, des fois ça me rend heureux aussi. Ouais, c'est des petites choses en fait.
Je sais pas s'ils nous écoutent, mais le seul qui pense à nous chaque année le jour de l'an, c'est Patrick Sébastien sur la 2. C'est le seul qui nous fait un petit coucou. Je dis une bonne année à tous ceux qui sont derrière les barreaux. C'est le seul. Il n'y en a aucun autre qui le fait. Ouais. Il ne faut pas nous oublier. Parce qu'on nous jette dans des murs et puis on est des oubliés. Ne nous oubliez pas. Il ne faut pas penser qu'on est des morts.
Aujourd'hui encore, c'était les pieds sur terre, quartier d'été et nos cahiers de doléances que nous avions recueillis en 2012 à la veille de l'élection présidentielle et qui devraient vous permettre de mesurer le chemin que nous avons accompli depuis. Reportage Olivier Minot, réalisé par Emmanuel Geoffroy, Sandrine Chaperon. C'était, c'est toujours l'attaché de production. Merci à Kamel, à Georges, à Yanis. Mais aussi à Saïd et un salut à tous ceux et celles qui sont derrière les barreaux de la part d'Olivier Minot, bien évidemment, et de la nôtre. Merci aussi à Louisa, à Naïma et à Joël de l'OIP de Lyon, à Malia et à son ami de l'intérieur, ainsi qu'aux ondes qui passent mystérieusement à travers les murs. Dans quelques instants sur France Culture, restez avec nous, culture, musique, toute cette semaine au Festival Radio France de Montpellier.